J'aurais une question par rapport à l'oral. Est-ce que lors de cet oral, on doit préciser de façon plus ou moins détaillée ce qu'on envisage comme faire, de faire comme recherche? Et si oui, est-ce qu'on peut obtenir une aide des chercheurs du laboratoire et de cette équipe?
L'objectif de l'oral, c'est de montrer comment on peut justement s'intégrer assez rapidement dans l'équipe. Donc évidemment, il faut aller voir un petit peu les axes de recherche qui sont proposés et comment vous pouvez vous insérer dans ces axes-là. Donc effectivement, oui, il faut détailler ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez apporter et comment vous allez finalement valoriser le labo, quoi, le laboratoire dans lequel vous allez rentrer, quoi. Il faut qu'ils vous voient comme un collègue, quoi, comme un futur collègue, quoi, avec qui ils vont pouvoir collaborer, avec qui ils vont pouvoir monter des projets de recherche, trouver des financements. Enfin, nous, c'était assez important, donc il fallait que j'expose un petit peu ce que je comptais faire justement pour trouver des financements.
Je veux dire, est-ce qu'on doit vraiment donner un axe complet de recherche? Parce que c'est pas évident d'avoir de nouvelles idées au sein d'une équipe, donc à quel point ça doit être précis justement?
Après, il faut être réaliste et honnête dans sa présentation et dire bon ben voilà, moi c'était un sujet que, enfin c'était un profil qui me correspondait pas du tout, donc j'ai montré que ben, j'avais de bonnes intentions, donc ça n'a pas suffi parce qu'ils m'ont classé troisième, hein. Mais bon, ils m'ont quand même classé, voilà, donc ça veut dire que ben, si le premier, enfin, si les premiers se désistaient, comptez sur moi, quoi. Parce qu'au départ, on était six candidats qui correspondaient plus ou moins au profil. Et ben moi, j'étais assez content, quoi, de finir troisième. Bon, il faut finir premier, évidemment, pour avoir le poste. Mais bon, s'ils m'ont classé, c'est que ben, ma présentation leur a plu et mes intentions aussi.
Ils font bien un ordre avec les 6 et puis ça avance. Et ils peuvent dire, ces trois-là, on ne veut vraiment pas.
Ouais. Et sachez qu'avant l'oral, ils nous avaient déjà classés. Donc ils savaient déjà plus ou moins qui ils voulaient prendre. Et donc c'est l'oral qui détermine le reste. Bon, là, il n'y a pas eu de surprise, le classement est resté le même. Voilà. Et après, bon, on ne peut pas non plus tout réinventer. Hein. Enfin, je veux dire, avoir de nouvelles idées, ce n'est pas évident. Moi, je sais qu'il me proposait un axe de recherche handicap, loisirs, santé. Alors, je me suis dit, comment je vais proposer quelque chose, quoi, en termes de recherche. Alors, j'ai juste expliqué qu'il serait intéressant peut-être de voir ce que pouvait émerger de la part des masters. Quel type de terrain ils pouvaient aller analyser, voir un petit peu ce qui ressortait des mémoires et partir de ça pour essayer de proposer un terrain de recherche, quoi. Voilà, j'étais parti sur ça. Donc, bon, là, je ne vais pas vous détailler, mais j'avais tout préparé à l'avance. Voilà. Évidemment, j'avais laissé quelques zones d'ombre. Enfin, je me suis dit, ils vont me poser des questions là-dessus et je vais rebondir. Assez facilement, encore là. Le réseau, ils m'ont demandé de suite, vous proposez telle chose, mais est-ce que vous avez le réseau? Nous, on a le nôtre, qu'est-ce que vous allez apporter de plus, quoi? D'ailleurs, pour le collègue qui était en Angleterre, c'est la question qu'ils ont posée de suite, c'est la première question qu'ils ont posée. Parce qu'ils avaient les mêmes réseaux. Donc, quel intérêt ils avaient à le recruter? C'était plus intéressant de l'avoir en Angleterre et d'avoir ce réseau là-bas en Angleterre que de le recruter finalement. Donc il a dû se défendre là-dessus, quoi.
J'ai deux petites questions. La première, est-ce qu'il y a un nombre minimum d'heures d'enseignement pour le dossier de Calif? De maître de conf. Et la deuxième question, c'est par rapport au poste CNRS. Donc, est-ce qu'il y a une obligation de faire l'enseignement ou bien un postdoc qui est obligatoire ou il y a quoi exactement comme condition qu'il fallait nourrir le dossier? Donc, voilà.
Concernant le nombre d'heures, je pense pas qu'il y a un nombre limite. Moi, j'ai jamais vu qu'ils précisent le nombre d'heures. Par contre, pour le post-doc, bah, Eric n'a pas fait de post-doc, donc c'était pas limitant. De toute façon, la terre, c'est presque entre l'enseignement et la recherche, donc ça justifie un peu votre activité de recherche, mais avoir fait un post-doc, c'est encore plus valorisant. Par exemple, moi, après la thèse, j'avais eu le demi à terre et j'ai complété avec un poste demi-ingénieur à l'hôpital. Et bon, cette année, j'ai dit, je ne veux pas continuer sur le poste ingénieur parce que ce n'est pas trop valorisant pour côté recherche. Donc, je passais sur un post-doc. Donc, cette année, j'ai renouvelé mon poste à terre, le demi à terre, et je complète avec un demi post-doc pour enrichir un peu mon dossier, histoire de dire, voilà, j'ai fait de la recherche. Dans un post-doc, vous montrez plus que vous êtes plus responsable, chef de projet, quoi. Vous êtes plus responsable de votre projet. Ce n'est pas comme le travail d'ingénieur. Donc, c'est mieux pour valoriser quand même votre activité de recherche. Voilà.
Juste une petite précision, plus vous avez d'heures d'enseignement et plus ça sera facile à valoriser pour l'oral, pour le concours de maître de conférence. Moins vous avez d'heures et plus ça sera, vous allez plutôt axer sur autre chose, quoi. Personnellement, je vous parle de mon expérience, j'avais axé vraiment là-dessus en disant que j'avais... enseigner à tous les niveaux. Et que j'avais même pris des responsabilités quand j'étais à TER en Guadeloupe, parce que j'avais remplacé un maître de conférence et que j'avais évalué les étudiants de A à Z, quoi, en contrôle continu, contrôle terminal, que j'avais pris d'énormes responsabilités, enfin, j'avais valorisé ça, quoi. Donc tout est valorisable, et plus vous avez d'heures, mieux c'est, je pense. Après, il n'y a pas. Je n'ai pas entendu de quota d'heures. Mais sûr, celui qui n'a pas d'heures, bon, voilà. C'est pas gagné.
Nous, il y a une maître de conf au laboratoire qui nous a dit que si jamais, si on a fait notre thèse sur Montpellier et qu'on veut postuler à un poste de maître de conf sur Montpellier, il faut qu'on sorte de l'académie au minimum 2 ans. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les académies et est-ce que ça, c'est toujours valable aujourd'hui?
Bah, c'était pas le cas d'Eric, je pense. Mais voilà.
La consanguinité. Ils n'aiment pas trop. C'est une politique souvent de l'UFR STAPS. C'était là, à la rentrée, le directeur a bien précisé qu'il préférait prendre des candidats extérieurs, quoi. Et il est venu sur mon cas me dire, bon, ben, celui-là, il a un parcours de Montpellier, mais il est parti en Guadeloupe et il est revenu avec une nouvelle expérience. Oui, il y a cette... j'ai toujours entendu ça aussi, qu'il fallait partir pour revenir. J'ai un autre collègue aussi, à Paul Valéry, qui était linguiste, il est parti 2 ans, ouais. 2 ans pour candidater dans son ancien labo, et au final, il a été recruté, quoi. Je pense que si j'étais resté à Montpellier, je suis pas sûr qu'il m'aurait recruté, quoi. Je pense que c'est une politique après du jury, enfin, est-ce qu'ils veulent recruter quelqu'un de la maison ou pas, voilà. Si, évidemment, ils ont un élément excellent, ils vont... peut-être tout faire pour le garder, quoi. En tout cas, en sciences humaines, je sais que ça, c'est mal vu. Après, pour finir là-dessus, je pense que tout est permis. Vous êtes qualifié, vous pouvez postuler au concours de votre université, quoi.
Petite question par rapport aux activités d'enseignement. Je ne sais pas ce qu'ils prennent en considération les activités assurées à l'étranger. Donc si on donne des cours dans une université étrangère et puis on postule ici.
Je pense qu'il ne s'arrête pas du tout, que ça soit fait à l'étranger ou ici. C'est le fait que ça soit vraiment une activité d'enseignement. C'est les compétences d'un enseignant qui sont plus étudiées. C'est pas que ça soit ici ou à l'étranger. Mais après, ça, pour moi, je le vois plutôt positif parce que vous avez pu vous adapter à des publics différents, avec des langues différentes, peut-être des programmes d'enseignement différents. Pour moi, c'est plus valorisant que... C'est pas un point négatif, quoi. Je pense qu'il faut le mettre, il faut le montrer. Il faut montrer plutôt les côtés positifs de cette partie, quoi.
Là, tout ce qu'on a dit, je pense que ça concerne plutôt la France. C'est ça. Si on veut candidater à l'étranger, est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'il y a des sites spéciaux? Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même procédure qu'en France ou...
Franchement, aucune idée, mais je pense qu'il faut se renseigner auprès des... Je pense que ça doit changer quand même.
Je sais que la qualif, c'est spécifique à la France, quoi. J'ai toujours entendu dire ça, on a nous cette barrière-là.
Spécifique à la France.
Ouais. Par exemple, le collègue bah, qui était en Angleterre, il a postulé directement comme lectureur. Et c'est l'équivalent ici de maître de conférence.
Et ça rajoute rien de dire qu'on a la qualif en France ?
Ça fait une petite ligne en plus.
Un dernier mot pour, si vous voulez plus de détails, donc, dans le guide du doctorant que vous avez sur le site de contact. Donc il y a un chapitre sur la qualification, voilà. Je ne sais plus quelle page, mais c'est sur la qualification. Donc c'est dans l'après-thèse, donc on vous indique un peu les étapes à suivre pour voilà, monter votre dossier de qualif et comment passer les concours de maître de conférence. Enfin, n'hésitez pas à le consulter.
Après, les plus aptes à vous renseigner, ce sont les maîtres de conf de vos labos, qui sont dans vos disciplines, et automatiquement, ils vont assez rapidement vous orienter si vous avez des questions vraiment très précises et spécifiques à votre discipline, quoi.
Bah, merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura surtout répondu à toutes les questions que vous vous posez. Donc, de toute façon, comme ils vous l'ont dit, hein, s'il y en a d'autres qui viennent des fois au fur et à mesure, ou peut-être même au moment où vous ferez les dossiers, c'est peut-être là où vous aurez le plus de questions, donc vous pourrez leur poser, hein, comme vous voyez, ils sont toujours prêts à répondre aux questions, c'est pas un problème. On vous a mis sur les tables un petit questionnaire pour savoir si ça vous a plu, donc si vous avez un petit peu de temps pour y répondre, nous ça nous aide, et surtout si vous avez des idées d'autres petits déjeuners. Parce que bon, c'est vrai que nous, on essaye de trouver des idées, mais c'est vrai que souvent, bah, malheureusement, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Donc si jamais vous avez des idées, elles sont vraiment les bienvenues, quoi. Et même si vous voulez vous investir aussi dans les petits déjeuners ou même autres à contact, hein, franchement, vous êtes les bienvenus. Toutes les petites mains sont bonnes à prendre. Voilà, on est là pour les doctorants et donc il faut que les doctorants s'investissent aussi à contact, quoi. Donc voilà, il reste encore plein de croissants, de viennoiseries, donc n'hésitez pas à vous resservir. Puis bah, merci à tous d'être venus aussi nombreux, surtout. Donc voilà, j'espère à la prochaine fois.
Une petite chose, je pense que l'association Contact a besoin de bénévoles, évidemment, et l'idée qui serait peut-être à mettre en place, bon, enfin moi j'ai plus la force et plus le temps, c'est peut-être des apéros de ce type-là, quoi, mais le soir, parce que le matin, j'ai eu du mal à me lever. Il faut 3 litres de café. Bon, voilà.
Bon, ben, on essaiera. On a une réunion ce midi, on va proposer les apéros contacts. Voilà, merci à tous.